finalement, ce, y compris les protestants d'ailleurs, dans cette culture de prendre du temps particulier pour prier, pour méditer aussi les récits qui précèdent la mort et la résurrection de Jésus, et pour aussi en peser le sens pour nous. Et le thème du désert est présent dans ces textes-là, notamment parce que dans la Bible, on l'a vu la semaine dernière, le désert, c'est un lieu privilégié de révélation de Dieu. Vous pouvez penser à tous les épisodes qui évoquent des moments de rencontre particuliers entre un humain et Dieu dans le désert. On pense au bruit, rien que le buisson ardent, par exemple. Un lieu de révélation, un lieu d'épreuve et donc d'apprentissage aussi. Dans le désert, on se découvre et on a aussi des opportunités nouvelles de découvrir Dieu, qui est Dieu, et un lieu de tentation. Et c'est ce que nous allons méditer aujourd'hui, le récit de la tentation de Jésus. Jésus lui-même a été conduit au désert pour y être mis à l'épreuve. Plutôt que tentation, il faudrait dire en fait littéralement mise à l'épreuve. Mais ça va ensemble, c'est la même chose, c'est une autre façon de dire. Jésus a été conduit dans le désert par l'Esprit pour être mis à l'épreuve comme le peuple d'Israël l'avait été dans le désert bien avant lui. Jésus allait-il réussir là où le peuple d'Israël avait échoué? Eh bien, lisons la suite dans l'évangile de Matthieu. Nous lisons Matthieu 4 et je lis à partir du verset 1. Ensuite, Jésus fut conduit dans le désert par l'Esprit pour y être mis à l'épreuve par le diable. Après avoir passé 40 jours et 40 nuits sans manger, Jésus eut faim. Le diable, le tentateur, s'approcha et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. » Mais Jésus répondit « L'Écriture déclare « L'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole » qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable l'emmena jusqu'à Jérusalem, la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car l'Écriture déclare « Dieu donnera pour toi des ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. » Jésus lui dit « L'Écriture déclare aussi « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne, lui montre tous les royaumes du monde et leur splendeur et lui dit « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit « Va-t'en, Satan, car l'Écriture déclare « Adore le Seigneur ton Dieu et ne rends de culte qu'à lui seul. » À ce moment-là, le diable le laissa. Des anges vinrent auprès de Jésus et ils le servaient. J'arrête ici ma lecture de la parole de Dieu. Je vous invite à prier encore. Dieu mystérieux, Dieu invisible, tu t'es révélé à travers ton Fils Jésus et à travers cette parole qui a traversé les siècles pour nous atteindre aujourd'hui encore. Que ton esprit qui l'a inspiré vienne aussi nous ouvrir l'intelligence, le cœur, et nous permettre d'entendre ce que tu veux nous dire. Nous te le demandons au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Il est probable que ce soit Jésus lui-même qui ait raconté cet épisode à ses apôtres. C'est un épisode qu'on retrouve raconté dans les trois évangiles synoptiques, c'est-à-dire qui ont des points de vue convergents sur les mêmes épisodes, hein, Matthieu, Marc et Luc. Ce moment étonnant et décisif de sa vie où il a été conduit donc juste après son baptême par l'Esprit au désert. C'est un épisode étonnant parce qu'il présente le Fils de Dieu tenté par Satan dans un affrontement qui reste mystérieux à tout niveau. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était en vision? Est-ce qu'il y avait quelque chose de physique? On ne saura jamais. Et c'est peut-être pas ça c'est pas ça l'important. Mais il y a quelque chose d'étonnant dans ce face-à-face. Et puis c'est un épisode décisif car à ce moment-là, le ministère de Jésus aurait pu s'arrêter avant même d'avoir commencé. C'était un tournant capital dans le ministère, dans l'œuvre, dans le positionnement, dans le cheminement de Jésus. Et c'est aussi un épisode qui a des choses à nous dire sur Jésus, sur qui il est, sur Satan, ses ruses, et puis aussi sur nous-mêmes, bien sûr. C'est pour cela que l'Église, à travers les siècles, a partagé le témoignage de ce récit. Il y a beaucoup de choses dans ce petit récit. Et commençons rapidement par ce que cet épisode nous révèle sur l'identité de Jésus. Donc, voilà Jésus qui vient de se faire baptiser et qui est transporté au désert. Qu'est-ce qui s'est passé au baptême ? Dans l'évangile de Marc, Marc 1, voilà ce qui est écrit. Au moment où Jésus remontait de l'eau, donc c'est Jean le Baptiste, son cousin, qui a baptisé Jésus. Au moment où Jésus remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux. « Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve toute ma joie. » C'est des paroles extrêmement fortes. On peut imaginer pour Jésus qui est en train de commencer finalement sa vie publique, il sort de son atelier de charpentier pour commencer à se positionner, à prendre position et à commencer à prêcher. Cette parole de confirmation, cette parole-là, elle est forte et elle est aussi étonnante. Mais elle dit quelque chose de la double nature de Jésus qui est pleinement un humain, à 100%, comme nous, et qui est en même temps pleinement le Fils de Dieu. Ça, c'est, il y a quelque chose qui nous dépasse et je vais dire c'est normal, bien sûr. En se faisant baptiser, Jésus montre qu'il est pleinement humain. En fait, il se rend solidaire de l'humanité. Il n'a pas besoin d'être lavé du péché, il n'a pas besoin de repentance, mais il suit un chemin qui est le nôtre. Et c'est la même chose dans cette tentation. Jésus devait passer par là, il devait être tenté, comme nous sommes tentés. J'y reviens. Et puis au moment de ce baptême, il apparaît aussi pleinement Fils de Dieu. C'est un des rares passages des Écritures où on voit le Père, le Fils et le Saint-Esprit ensemble. La voix du Père, le Saint-Esprit descend sous la forme, sous une forme corporelle. On voit souvent une colombe, il dit c'est comme une colombe, on ne sait pas trop. Mais il y a un moment de communion très fort là. Et ce n'est pas un hasard si Satan entre en scène juste après. C'est souvent comme ça dans la vie spirituelle. Quelqu'un a dit, c'est comme le mouvement d'opposition à l'air. Quand on veut avancer, on sent l'air qui résiste. Et dans la vie spirituelle, c'est pareil. Quand on veut s'avancer vers le Seigneur, quand on fait un pas, eh bien, on ne doit pas être étonné, même si les choses sont toujours plus complexes que ça, mais on ne doit pas être étonné si spirituellement, il y a une opposition dans l'autre sens. Et c'est là. Jésus, donc, devait passer par cette mise à l'épreuve. Et il y a un passage qu'on cite parfois, qu'on cite souvent plutôt dans l'Épître aux Hébreux, je le citerai, mais on s'arrêtera pas dessus. C'est le passage d'Hébreux 4 qui nous dit « Nous n'avons pas un grand prêtre, c'est un représentant devant Dieu, qui soit incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été mis à l'épreuve en tout comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. » Et c'est là que ça se passe. C'est là que ça commence. Même si, évidemment, Satan va tenter Jésus jusqu'au bout. Et puis enfin, cette mise à l'épreuve va permettre à Jésus de s'affermir pour la mission parce que il va devoir prendre position, on va le voir, à la fois dans son identité donc de fils de Dieu et de Messie, et dire aussi, choisir quel type de Messie il veut être. Comment il va sauver le monde ? Il y a plein de façons. Et Satan vient lui proposer les façons les plus humaines possibles, les plus tentantes, les plus rapides. Et c'est l'idée clé que j'aurais partagée avec vous, la façon dont Satan vient ici tenter Jésus avec quelque chose d'immédiat. Alors j'ai mis immédiateté, j'aurais pu mettre les raccourcis. La tentation, c'est d'aller vite au but, en passant par un chemin qui a l'air facile, qui a l'air plus aisé, moins douloureux. Mais c'est une fausse piste. Voilà ce qui se passe, et ce qui se passe aussi avec nous souvent. Satan vient attaquer là où Dieu a parlé. Si tu es le Fils de Dieu, tu es mon Fils. Et immédiatement, Satan qui vient et qui vient souffler le doute. Si tu es le Fils de Dieu. On reconnaît là la ruse du serpent de la Genèse. Est-ce que Dieu a vraiment dit ? Est-ce que tu es vraiment ? Et le principal objectif de Satan ici, de façon générale, je crois que c'est pas tant de pousser les humains à pécher, que de les couper de la relation avec Dieu. C'est ça que Satan vient faire ici. Il veut couper Jésus de sa relation avec son Père. Et le péché va entraîner ça, mais l'objectif, c'est de nous couper de Dieu. C'est de nous pousser à vouloir être autonomes. Et Jésus va vivre cette tentation-là pleinement avec ces trois moments. Alors, on va les aborder rapidement, mais regardez l'axe de cette histoire du raccourci. Première tentation, ordonne, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Matthieu nous dit que ça fait 40 jours que Jésus jeûne, il a faim. La mention est importante. Et le piège proposé semble presque raisonnable. Jésus a faim, il a vraiment faim, il est vraiment humain. Il a le pouvoir de transformer des pierres en pain, c'est pas un péché d'avoir faim. Et quand on est Dieu, c'est pas un péché d'utiliser sa puissance pour créer. Donc finalement, tous les voyants sont au vert. La logique de Satan peut sembler juste. Et en effet, puisque c'est un excellent manipulateur et qu'il a cette capacité à faire passer des jugements ou des logiques qui sont biaisées pour des logiques saines. Jésus répond, l'Écriture déclare, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi cette réponse? Elle montre en tout cas que Jésus voit clair dans la stratégie. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, vous reconnaissez peut-être un verset qui est extrait du texte de Deutéronome 8 qu'on a médité dimanche dernier, qui est le discours que Moïse fait après les 40 ans dans le désert, à la sortie du désert, pour en tirer une sorte d'enseignement, de bilan. Voilà ce qui s'est passé dans le désert. Et c'est là qu'il a cette parole. L'homme, l'être humain, ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En fait, Moïse dit en substance que Dieu a permis que le peuple d'Israël vive les 40 ans d'errance dans le désert avec tout ce qu'il y avait de privation pour apprendre la dépendance à Dieu. Découvrir qui était vraiment Dieu, découvrir comment Dieu allait prendre soin d'eux et du coup approfondir sa communion. Et voilà donc ce qui est en jeu ici. C'est précisément la dépendance de Jésus à son Père. Comme nous les humains, nous sommes invités à faire confiance à notre Père parce qu'il nous aime et à croire qu'il va prendre soin de nous. Jésus va aussi faire le choix de faire confiance à son Père pour être nourri, pour qu'il prenne soin de lui, sans utiliser sa propre divinité. On peut se dire, pourquoi? Qu'est-ce qui se serait passé si Jésus avait décidé de changer les pierres en pain? Il sortait de son humanité. Il faisait plus corps avec nous, il prenait un raccourci, une échappatoire, il y avait une dispense d'humanité, une dispense de souffrance, une dispense de limite. Et être humain, c'est avoir des limites. Et la tentation de Satan, c'est justement de nous pousser à sortir de nos limites, à vouloir être toujours plus, aller plus loin que ce qui est bon pour nous. Et il aurait pris son autonomie vis-à-vis du Père. Je ne compte pas, je n'attends pas que le Père prenne soin de moi. Je le fais moi-même. Et donc, on trouve ici pleinement déployé cette tentation de l'immédiat, aller droit au but, satisfaire un besoin, une envie, sans penser à aller plus loin, sans penser aux conséquences. Bon, allez, c'est naturel, t'as envie de ça, vas-y. Et on a ça en nous. Regarder le fruit appétissant sans penser aux conséquences. C'est notre vie, ça, je crois. On connaît. Et ça fait partie de l'humanité aussi, bien sûr, d'avoir des besoins légitimes. Et il faut les écouter et en prendre soin. Mais c'est là où l'adversaire, l'ennemi qui ici se présente vraiment comme une personne avec une personnalité, une intention. Donc on sait pas trop, Satan c'est mystérieux, mais on sent que là il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vient et qui a une stratégie. Et cette stratégie-là, elle a été déployée déjà plein de fois dans la Bible. Il y a plein d'histoires de la Bible où des hommes, finalement, n'ont pas eu la patience d'attendre et de faire confiance à Dieu, ils ont choisi des raccourcis. On peut penser à Abraham et Sarah, à qui Dieu avait promis un enfant, et l'enfant tardant à venir, et ben, ils se sont lancés dans d'autres solutions, avec la servante, etc. Et puis ça a créé à chaque fois des problèmes et des conséquences. David avec Bathsheba, qui était roi, qui était un homme de Dieu, puis qui tout d'un coup s'est laissé entraîner par son désir pour la voisine, et puis et ça a entraîné des conséquences terribles. Satan vient nous chercher là, dans le tout de suite, dans ce qui a l'air simple, dans ce qui a l'air plus rapide. Et les deux autres tentations vont dans le même sens, avec la même logique d'immédiateté, là tout de suite, vite, chemin large, rapidité, rationalité même, c'est rationnel, hein, clac, clac. Tu es Dieu, tu as faim, ben, change les pierres en pain, c'est simple. Et dans les deux autres tentations, plus clairement encore, c'est carrément toute la mission de salut de Jésus qui va être mise en jeu, en fait. C'est ça l'enjeu. La deuxième tentation revient à dire, donc le diable emmène Jésus à Jérusalem, la ville sainte est le mieux au sommet du temple. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais notons simplement quand même, si Matthieu note que c'est la ville sainte, ça veut dire que Satan agit partout. Le temple, c'est là où Dieu se rend présent. Satan est là aussi. Il ne faut pas s'imaginer qu'il y ait des limites à sa nuisance, en tout cas géographiquement. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer ? Satan lui dit, jette-toi du haut du temple, des anges te rattraperont. Et donc, tu vas t'imposer immédiatement comme un messie plein de puissance. Tout le monde va te voir, tous les croyants rassemblés vont te voir, ils vont voir à quel point tu es puissant, et hop, tu seras tout de suite suivi par les foules. Ça, c'est dire efficace. Vas-y. C'est un gros coup de com', un gros coup d'éclat. Et en plus, c'est dans la Bible. Satan cite la Bible. Il dit, regarde, c'est écrit. Donnera des ordres à tes anges. Vas-y, fonce. Et puis la troisième, prosterne-toi devant moi et je te donne tout de suite la domination sur tous les royaumes du monde. Alors, là aussi, il y a beaucoup de choses dans cette affirmation. Satan sous-entend qu'il a la domination sur tous les royaumes du monde. Ça sera à discuter. Mais ce qu'il y a derrière, c'est finalement, pourquoi, Jésus, pourquoi est-ce que tu veux suivre ce chemin si long, si compliqué que le Père a tracé pour toi? Pourquoi marcher des années en compagnie de quelques pécheurs analphabètes qui comprendront rien à ce que tu dis, qui vont être lents, qui vont te freiner, tu vas subir l'opposition, tu vas avoir faim. Vous allez marcher des heures, vous n'aurez pas de lieu pour vous reposer. Les foules qui vont te sauter dessus, gérer les besoins, gérer les attentes. Et puis après, il y aura la passion. Pourquoi est-ce que tu veux vivre tout ça? La croix? Alors que tu peux avoir tout de suite la domination. Je te donne tout de suite. Et je crois que ça a dû être vraiment tentant pour Jésus à ce moment-là. Il a vraiment été tenté, nous dit, la parole nous le dit. Et peut-être qu'il y a eu quelque part un avant-goût de ce qu'il va vivre à Gethsémané juste avant la crucifixion. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et à Gethsémané, Jésus est tenté, il pleure. Parce qu'il sait la souffrance qui l'attend. Mais dans le désert, comme à Gethsémané, Jésus a choisi d'obéir malgré tout. Toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi je veux. Et à chaque tentation, Jésus oppose sa confiance dans le Père. Et il brandit la parole de Dieu comme un bouclier. Mais c'est pas parce qu'il cite la parole qu'il y a quelque chose de magique. Il faut pas qu'on croie ça. Puisque Satan l'utilise aussi, la parole. C'est parce qu'il l'utilise et qu'il la pose comme le chemin qu'il va suivre. Il va faire confiance au Père. Il sait le prix, il sait que c'est dur. Il va faire confiance au Père. Et ce passage met en lumière cette tentation. Et je voulais faire un focus rapide sur son impact, ou ce que ça veut dire dans notre vie spirituelle, particulièrement. Bon, il y a plein d'applications à ça. Comment Satan vient nous tenter, nous aussi, en nous faisant miroiter des chemins plus courts vers ce que nous désirons, en jouant sur nos faiblesses, nos peurs, nos impatiences, nos aspirations secrètes à la puissance, notre peur de souffrir, tout ça, tout ce qu'on porte tous, parce qu'on est des humains. Et comment il utilise ça pour nous détourner de Dieu et puis venir finalement nous éloigner, briser cette communion, en tout cas l'altérer. Et en faisant ça, si on tire le fil et qu'on voit toutes les conséquences, eh bien, il vient freiner, faire obstacle à l'avancée du royaume de Dieu dans le monde, puisque ce royaume de Dieu, il doit se déployer en nous pour rayonner. C'est ce qu'on a vu dans la lettre aux Éphésiens. C'est parce que nous grandissons dans l'amour que Dieu peut se révéler. Mais si on prend des fausses pistes, eh bien, les choses sont plus compliquées. Et dans notre vie spirituelle, ça peut prendre plusieurs formes. Alors, il y en a plein d'autres, et je suis sûr que vous aurez d'autres idées. Moi, j'ai pensé à celle-là. Mais... Par exemple, dans la prière, on peut être tenté par une forme de recherche de puissance mal ajustée. Alors, je pèse mes mots, mais vous savez, dans une façon de prier où on proclame sa foi, on veut prendre position, et c'est bien. On dit, je vais prier avec foi, je suis convaincu de ce que je dis. On prie, par exemple, par rapport à une maladie, par rapport à quelque chose qu'on désire, on prie avec foi, et c'est beau. Mais pourquoi la prière est-elle puissante? Parce que Dieu est puissant, pas nous. C'est pas notre foi qui est importante, c'est Dieu. Mais il peut y avoir une façon de prier dans laquelle on va exiger de Dieu des réponses immédiates, un peu comme Jésus aurait pu le faire en disant « Allez, je vais sauter du temple, et puis toi, tu vas prendre soin de moi. » Et la réponse est « Ne tente pas le Seigneur. » Nous ne positionnons jamais devant Dieu en exigeant des choses. Parce que à ce moment-là, où est la confiance? Où est la confiance dans ce Dieu souverain, dans ce Dieu qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous? Donc la foi, c'est faire confiance, c'est prendre la parole de Dieu au sérieux et prier à partir de ça. Mais on peut se retrouver, vous voyez, à glisser dans cette tentation de dire « Allez, tout de suite, parce que c'est écrit, et du coup ça doit arriver. » Et qu'est-ce que ça entraîne? Ben, peut-être la déception, la désillusion, le doute sur Dieu. Ben, je croyais que, pourquoi Dieu n'a pas répondu? Et là, Satan a beau jeu de venir nous souffler. Est-ce qu'il t'aime vraiment? Est-ce que tu es vraiment chrétien? J'ai accompagné cette semaine, j'ai rencontré un jeune qui n'est pas dans cette communauté cette semaine. C'était extrêmement fort et extrêmement difficile et poignant d'écouter ce jeune qui est aux prises avec des difficultés, avec des addictions en particulier. Et le cœur de sa souffrance, c'était le doute sur sa relation avec Dieu. Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que je suis sauvé parce que je pêche? Et ça, c'est vraiment la logique de Satan. Si tu ne pêches, c'est une vision à court terme. Ben, si tu pêches pas, c'est que tu es chrétien. Si tu pêches, c'est que tu n'es pas chrétien. Et du coup, pourquoi? Et hop, on s'enferme. Confiance dans la parole. Tu es mon fils, tu es mon enfant. Et on va y arriver ensemble. La tentation de l'immédiateté, elle peut aussi affecter la façon dont nous vivons notre transformation intérieure à l'image du Christ. On en a parlé aussi pas mal avec la lettre aux Éphésiens, je vais pas trop long là-dessus, mais c'est pareil, on peut, face à nos limites, à ces péchés qui reviennent, à nos combats, à ce qu'on voudrait changer dans nos vies, on peut avoir aussi une forme d'impatience et puis quelque part, attendre de Dieu qu'il nous transforme complètement là tout de suite. Un peu comme arriver à la croix sans souffrir. Je te donnerai tous les royaumes du monde sans que tu aies besoin de passer par la souffrance. Je te donnerai la sainteté, je te donnerai une vie épanouie, je te donnerai le succès sans que tu aies besoin de travailler sur toi, sans que tu aies besoin d'apprendre à obéir, sans que tu aies besoin d'apprendre à connaître la Bible, sans que tu aies besoin de passer du temps avec les autres pour apprendre la patience, n'est-ce pas ? Avec les frères et sœurs, hein? Oui, on peut le dire ou pas? Hein? C'est là qu'on apprend à aimer. Et du coup, toutes ces impatiences-là, tout ce qui finalement, même pour les meilleures raisons du monde, nous entraîne à vouloir aller droit au but, tout ça c'est suspect et ça invite quand même à prendre du recul. Le chemin du Seigneur, j'y reviens, c'est un chemin qui est un peu différent. Puis, le dernier exemple qui m'est venu, c'est dans la vie d'église. On pourrait avoir tentation d'aller droit au but en disant, OK, on veut vraiment rayonner. On veut vraiment que le Seigneur soit manifesté dans ce quartier. Bien, du coup, il y a plein de façons de remplir une salle. Hein? Je dis souvent, c'est pas le nombre de personnes qui compte puisque les supermarchés sont toujours pleins. Donc, on peut faire des compromis, on peut accélérer les décisions pour avancer plus vite dans nos décisions, quitte à pas écouter tout le monde ou à piétiner un peu nos principes, etc. C'est des tentations qu'on a toujours, ça. Mais l'efficacité selon Dieu, je crois que c'est ça le cœur, n'est pas la même que l'efficacité selon nous. Et l'exemple de Jésus nous montre ça. Les chemins de Dieu sont des chemins de patience, de lenteur, de profondeur. En apparence, ils ne sont pas efficaces. En apparence, tourner 40 ans dans le désert, c'est une perte de temps. En apparence, quand on est Dieu, venir former 12 bonhommes un peu obtus, avec la comprenette un peu ensablée souvent, pendant 3 ans dans une région retirée du monde, ça n'a pas de sens stratégique. Et pourtant, c'est comme ça que Dieu a choisi d'installer son royaume. Nous sommes là ce matin. Ça a marché, ça a fonctionné, on est là. Alors comme Jésus, résistons à la tentation d'échapper au chemin ordinaire de la vie. Acceptons de suivre des chemins de lenteur, des chemins à taille humaine, au rythme humain, en cherchant la présence de Dieu dans ces moments-là, en écoutant sa parole avant nos idées, mettant nos intuitions à l'épreuve aussi de sa parole et de la vie des autres, en marchant au rythme de son esprit, au rythme de la confiance et en cherchant d'abord la communion avec lui. En croyant qu'avec le Seigneur, il n'y a jamais de moment perdu. Avec le Seigneur, rien n'est jamais perdu. Et il n'y a pas de moment perdu. Et pour finir, eh bien, pour contempler ce modèle qui nous est donné en Jésus-Christ et qui est lui aussi notre secours. Le dernier verset du passage est imparable. Le diable le laissa. L'ennemi est vaincu. Alors, n'accordons pas trop d'importance à tout ce qui est, justement, aux questions, je trouve, démoniaques, même s'il faut être conscient que ça existe, et pas être naïf. Mais Satan se nourrit aussi de l'importance qu'on lui donne. C'est un peu ce qui vient là, quand il dit « Je te donnerai tous les royaumes de la terre », ils sont à moi. Il s'adresse à Dieu, au Créateur du monde. C'est faux. Et gardons les yeux fixés sur Jésus. Et quand nous sommes tentés, il est présent avec nous. Il sait ce que nous vivons. Et en son nom, par la puissance de son esprit, nous pouvons résister. Et si nous tombons quand même, il est aussi là. Et n'écoutons pas les paroles de division, les pensées qui vont nous dire « Mais tu es chrétien, t'as vu ce que t'as fait. Comment est-ce que tu peux ? Ne va pas à l'étude biblique ce soir, tu es pas en état. Ne va pas au culte. Tu n'es pas digne. Ne prends pas la Sainte Cène, tu es impur. » Au contraire, retournons au pied de la croix. Accrochons-nous à Jésus qui, lui, a tout accompli pour nous. Il a vaincu Satan, il a vaincu le mal, il nous aime. Et nous sommes, grâce à lui, les enfants de Dieu. Alors, tout est ouvert pour nous. Et nous pouvons être dans la joie. Amen.